J'ai vu des images pour les enfants, mais on n'a pas beaucoup d'enfants ce matin. Alors bon, on va laisser les images. Et donc, nous avons fini notre série sur Ésaïe jusqu'au chapitre 6. J'avais prévu qu'on s'arrête au chapitre 6, on n'ira pas plus loin cette fois-ci, mais bon. Les frères ont fait remarquer, ce serait bien quand même qu'on voit un peu les prophéties, tout ça, qu'on aille un petit peu plus loin. Alors c'est ce qu'on va faire pendant 3 dimanches. On va voir l'accomplissement des prophéties, notamment des prophéties d'Ésaïe ce matin. Et la semaine prochaine, on verra un petit peu ce qui concerne Jésus en tant que prophète et les prophéties que Jésus a données également. Alors peut-être vous pensez c'était formidable dans l'époque de l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, tout ça, ainsi parle l'Éternel, les choses étaient claires, et maintenant ces choses-là, est-ce que ça a disparu, ça n'existe plus, ou d'avoir une certaine, peut-être une sorte de nostalgie, ou Et je voudrais quand même commencer par une mise en garde, parce que on n'a pas vu grand chose du prophète Ésaïe, mais dans ses premiers chapitres déjà, il émergeait le fait que les prophètes n'avaient pas, généralement pas dans la Bible, des bonnes nouvelles pour le peuple. Généralement c'était pour les reprendre, parfois pour les encourager, mais les encouragements sont assez rares. Généralement, il devait intervenir parce que le peuple avait besoin d'être repris. Et donc, le message des prophètes n'est pas quelque chose qui va toujours nous brosser dans le sens du poil, comme on dit. Donc ça, c'est une première remarque. Si nous cherchons la prophétie, il faut savoir que nous allons avoir des messages qui vont peut-être pas être agréables à entendre. Et on a vu également, la semaine dernière encore, que ce sont des messages qui étaient pas bien écoutés. Et dans le prophète Ésaïe a parfois été écouté, et puis d'autres fois, le peuple et le roi ont fait ce qui leur semblait bon. Et c'était pas bien. Et ils s'en sont rendus compte. Mais c'est ainsi. On a aussi tendance à ne pas écouter. Donc si nous voulons entendre vraiment la parole de Dieu, est-ce que nous sommes disposés à obéir? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu me parler? Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il va me dire? Et est-ce que, de ce que j'ai appris déjà, est-ce que je suis obéissant des choses que je sais, qu'il m'a enseigné, qu'il m'a appris des choses que je sais de lui, qu'il veut que je fasse? Est-ce que déjà je suis obéissant sur ce terrain-là? Parce que dans l'apprentissage, vous savez, quand il y a des apprentis qui doivent apprendre un métier, c'est une image que je donne, il y a des étapes, il faut apprendre certaines choses, et puis quand c'est bien maîtrisé, on apprend autre chose, on passe à une autre étape, mais des fois on peut rester longtemps sur une étape, parce qu'on la maîtrise pas. Si on pense aux enfants dans les petites écoles, avant de faire les multiplications, il va falloir comprendre les additions, autrement on ne pourra jamais passer à la multiplication. Et pour nous, je crois que ça peut être aussi ça dans notre vie. Il faut d'abord apprendre à obéir aux choses que l'on sait. Et puis après, on pourra soupirer peut-être après autre chose. Mais on a toujours tendance à vouloir des choses auxquelles on aspire, des choses qui nous font plaisir. Et on recherche ça finalement à travers les prophéties. Et on peut se donner une foule de prophètes pour peu que cela nous aille, pour peu que le message nous soit agréable et que ce soit ce qu'on a envie d'entendre. Tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le plus grand, vraiment tu es magnifique. Voilà les choses qu'on a envie d'entendre. Hein. Alors, c'était la petite mise en garde pour commencer. Et qui concerne les prophéties, on en avait parlé lors de l'introduction, mais je pense que c'est bon d'y revenir si on s'intéresse à la prophétie. la Bible, la révélation biblique, elle est donnée dans un ordre. Et au début, il y avait le Pentateuque, les cinq premiers livres de Moïse. Et puis là, tout est construit, il s'ancre là-dessus, le reste se bâtit dessus. Et donc, c'est fondamental ce que Dieu nous révèle à travers le Pentateuque. Et donc, pour la prophétie, il y a des choses très claires qui ont été annoncées par Moïse. On avait déjà lu ça, on va le relire en Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Si vous avez votre Bible, vous pouvez retrouver ce texte au verset 15. Deutéronome 18, 15. Donc, nous sommes juste aux portes de Canaan, aux portes de la terre promise, tout proche de la conquête. Le peuple est sorti d'Égypte. Il a été instruit dans le désert pendant, et purifié, sanctifié aussi, on peut le dire, dans le désert pendant 40 ans. Et là, il est tout proche de rentrer dans la terre promise. Et nous lisons donc Deutéronome 18, 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à ta demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, donc ça c'est relatif au mont Sinaï, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus les grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur donnerai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui ai pas dite, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous que la parole de l'Éternel n'aura pas été dite? Comment savoir distinguer le vrai du faux? Quand ce que te dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce ne sera pas une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Ce sera, pardon, une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc, ce texte, hein, le métier de, on voit que entre guillemets, le métier de prophète, c'était quand même un métier à risque, hein. C'était pas facile d'être prophète parce que il y avait la difficulté soit de ne pas être écouté, soit d'être si on ne disait pas vraiment la parole de Dieu, si on se mettait à parler de son propre chef, c'était dangereux, hein, on pouvait être mis à mort à cause de cela. Et pourtant, Moïse dit qu'il va y avoir des faux prophètes. Et les faux prophètes seront plus nombreux que les prophètes authentiques. On voit ça dans la parole de Dieu et dans l'histoire d'Israël. Donc, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir également pour certifier que, voilà, c'est bien un prophète de l'Éternel. Et le peuple, pour avoir confiance dans un prophète, il fallait qu'il voie l'accomplissement de prophéties. Et dans la parole de Dieu, on voit de nombreux prophètes qui donnent nos paroles et elles s'accomplissent. Hein. Élie avait dit, il pleuvra pas jusqu'à ma parole et il n'a pas plu. C'était vraiment un prophète de l'Éternel. Ce qu'il prédisait, ça se passait exactement comme il disait. Et ça faisait de doute pour personne. Mais c'est pas pour autant qu'ils étaient écoutés. On peut dire également que toutes les prophéties faites par les vrais prophètes vont se réaliser. Ça aussi, c'est quelque chose qui est doit être pour nous une certitude. Il y a ce qu'on a vu qui s'est déjà accompli, mais il y a tout ce qu'ils ont parlé qui n'est pas encore arrivé. Ça se réfère toujours au temps de la fin Et là, on peut avoir la certitude, si c'est un prophète de l'Éternel, que cela va arriver. Et donc, la question de savoir si un prophète est un vrai ou faux a beaucoup d'importance. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez, il y a un texte qui illustre très bien cela. Un texte de 1 Roi 22, 10-28. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Ça se passe du temps du prophète Akab, donc dans la partie d'Israël au nord. Donc c'est le premier livre des Rois, chapitre 22. Et là, il va y avoir un prophète de l'Éternel qui va être mis au défi. Donc le roi Akab a reçu la visite du roi Josaphat et Akab se dit eh ben voilà, on va aller faire la conquête ensemble d'une ville voisine. Et donc il essaye d'entraîner Josaphat dans cette expédition militaire, mais Josaphat n'est pas tout à fait David allait sans consulter au préalable l'Éternel. Et donc pour consulter l'Éternel, on faisait appel aux prophètes, bien sûr. Donc, 1 Roi 22, chapitre 5. Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 prophètes qui étaient là. Alors, si on connaît l'histoire, on sait qu'il y avait 400 prophètes de Baal qui avaient été mis à mort il y a peu de temps en arrière par Élie. Alors, il les avait immédiatement remplacés. Et on va s'apercevoir que ce n'étaient pas des vrais prophètes. Et le roi Akab dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate ?» Ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera la ville entre les mains du roi. Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel que nous puissions consulter? Je ne sais pas pourquoi, mais il avait repéré que ce n'étaient pas des vrais prophètes, le roi Josaphat. Il y a encore un homme que l'on pourrait consulter, par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il prophétise que du mal, c'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat lui dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, vêtus de leurs habits royaux. Essayez de vous représenter ça. Sur la place à l'entrée de la porte de Samarie, une grande esplanade donc. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Il y en a un qui s'appelait Sédécias, fils de Kémaza. Il s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramat en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était appelé Miché lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Et Miché répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramat en Galate ou devrons-nous y renoncer? Et il lui répondit, monte, tu auras du succès. L'Éternel la livrera entre tes mains du roi. Et donc là, il devait le dire sur un ton qui n'était pas convaincant. Et le roi lui dit, combien de fois me frauda-t-il te faire jurer de ne dire que la vérité au nom de l'Éternel? Miché répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de maître, que chacun retourne dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'avais-je pas dit, il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à la droite et à la gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramath en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, « et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. » Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Canaana, s'est approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Michée, amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'aura pas parlé par moi. Et il dit encore, vous tous le peuple, entendez bien. Et la suite donc, Achab, quoi qu'il se soit déguisé, parce qu'il se doutait que il avait peur quand même de la parole de Michée. Quoi qu'il se soit déguisé, il va mourir sur le champ de bataille. Et ce sera la fin de Achab. Et donc on voit à travers cet exemple, cette illustration, le rôle et la mission des prophètes de l'Éternel qui n'était pas facile. Michée a reçu des coups. Il a été mis en prison. Et c'était souvent ce qui attendait les prophètes de l'Éternel. Parce que la chose qu'ils voulaient dire n'était pas toujours celle que l'on voulait entendre. Et jusqu'à présent, la parole de Dieu dit des choses et on n'a pas toujours envie de l'écouter. On n'a pas toujours envie de l'écouter. Je voudrais prendre quelques minutes, si vous connaissez votre Bible, pour regarder les accomplissements des prophéties d'Ésaïe. On ne va pas regarder en détail, mais on va survoler celles qui concernent la venue de Jésus. Et je vais les balayer. J'espère que ça nous fera du bien de voir comment, bien longtemps à l'avance, le 800 ans à l'avance, je crois que ça faisait 800 ans, le prophète Ésaïe a annoncé la venue de Jésus. 800 ans, non, c'est un moins 800, c'est ça. Alors, retrouvons notre prophète Ésaïe. Donc, on a vu la semaine dernière celle qui concernait le fait que le peuple, en fait, c'était un message de jugement qu'avait Ésaïe. Va dire à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, etc. Ésaïe chapitre 6, verset 9, cette prophétie est citée pas moins de 5 fois dans le Nouveau Testament. C'est une des prophéties d'Ésaïe qui est le plus citée et qui a été accomplie en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, le peuple ne voulait rien entendre et ils ont fermé leurs oreilles et Jésus leur a parlé en parabole. Et ils n'ont absolument rien compris. Chapitre 7, verset... Donc là, on voit qu'il y a un deuxième accomplissement, en fait, à la prophétie. Chapitre 7, verset 14, il est question... on connaît bien ce passage au moment de Noël, c'est pourquoi Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. C'est dans le contexte d'une prophétie qui s'est accomplie du temps d'Ésaïe, mais qui a connu un meilleur accomplissement en Jésus-Christ, puisqu'on n'a pas de détails de l'accomplissement dans Ésaïe, mais on a de très bons détails de la Vierge Marie qui a mis au monde l'enfant Jésus sans avoir connu d'homme auparavant. Chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a resplendi. Un petit peu plus loin. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Qui parle également de la venue de Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est un début d'accomplissement, puisque Jésus-Christ n'a pas encore pris n'exerce pas encore la royauté sur la terre. Hein. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Certes, Jésus-Christ a brisé le pouvoir du péché, mais il y a aussi le jugement des méchants qui doit arriver et que Jésus n'a pas encore accompli. Vous tournez encore la page, verset 11. Un rameau sortira du trône d'Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force. Il respirera la crainte de l'Éternel. Un petit peu plus loin. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. La proclamation du message de l'Évangile et la conversion de toutes les personnes partout, tout autour de la terre, qui vont se convertir. Chapitre 28, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, voici, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, qui fait référence à Jésus-Christ. 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine, le reproche que fait Jésus de son temps aux autorités. Chapitre 40. Verset 3, une voix crie, préparez un désert, le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et colline soit abaissée, qui fait référence à la venue de Jean-Baptiste et à la naissance de Jésus, prophéties qui sont accomplies. Ensuite, 42, 49, 50, 52, 53, on trouve les chants du serviteur de l'Éternel. Je vous en ai souvent parlé de ces chants et qui parlent du Messie avec une très grande précision. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui je prendrai plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. 49. Et donc il y a toute la suite qui suit, verset 49. Il écoutait, peuple lointain, soyez attentif, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles, il a rendu ma bouche sensible à une glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, etc. Le troisième chant, chapitre 50. versets 4 à 11. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille chaque mois, chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et ça nous amène après au chapitre 53, Isaïe 53. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme, de la même manière. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait été point raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 53, un des passages les plus saints de la Bible. Tournons encore 54, tout le chapitre 54. Particulièrement les versets 1 à 17 du chapitre 54. Réjouis-toi, c'est terrible, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas connu de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, qui annonce l'Église. L'apôtre Paul a choisi ce texte pour parler de l'Église. Galates chapitre 4, verset 27. 55 également, le salut pour tous, venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux même celui qui n'a pas d'argent. 56, 3 à 8, Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mon mur une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leur holocauste, leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples de la terre. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, à ceux déjà rassemblés, qui parlent de l'Église. 57, 14, 21 également, juste le chapitre d'après. On ira frayer, frayer, préparer un chemin, enlever tout obstacle du chemin. 57, 14. À 21. Ah, là, j'ai fait. Là, j'ai fait une petite erreur de saisie. C'est 61, 1, 3, un petit peu plus loin. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc ces paroles, Jésus a dit lui-même, elles sont accomplies. Il les a prononcées, il a dit, elles sont accomplies. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, voici, me voici, je viens, Dieu qui se révèle aux nations. Mon passage de tout à l'heure. Je vais le retrouver quand même. Voilà, c'est 55. 1.13, vous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez manger, achetez du vin et du lait sans rien payer, un salut qui est gratuit, etc. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Donc, on peut avoir la certitude que toutes les autres prophéties du livre s'accompliront, puisque celles-là se sont parfaitement accomplies. Elles parlent toutes de Jésus. Alors, comment comparer cela aux prophètes contemporains? Il y a beaucoup de personnes qui se présentent comme des prophètes, hein, même au 21e siècle que nous sommes. Alors notre responsabilité n'est pas de juger, mais il faut vérifier quand même, est-ce que le message est compatible avec la parole de Dieu? Est-ce que vraiment, ils parlent bien du même Dieu, ces prophètes-là? Est-ce qu'ils portent des fruits dans leur vie? Est-ce qu'ils marchent avec Dieu? Est-ce qu'il y a des accomplissements de leurs prédictions? Beaucoup de chrétiens même se présentent comme des prophètes. Alors, je ne vais pas me faire des amis avec eux hein, en disant ça. Mais où est l'accomplissement de leurs prédictions? Où est-il? Pourquoi aucune personne n'a prophétisé la venue du coronavirus? Ça a surpris tout le monde. Où étaient les prophètes à ce moment-là? Le prophète Ésaïe donne lui-même la réponse. Ésaïe 41. Je vais terminer avec ça. Verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez l'avenir. Dites ce qui doit arriver plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et regardions ensemble. Voilà, vous n'êtes rien. Votre œuvre est du néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom, il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. On pourrait dire ça de notre coronavirus, hein. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. J'ai regardé, il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Ils sont tous que vanité, leur œuvre ne sont que néant, leur idole ne sont qu'un vain souffle. Verset 44:6, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et qui le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent à l'avenir ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, il n'y a d'autre Dieu que moi. Il n'y a d'autre Dieu que l'Éternel. Et y a-t-il des prophètes aujourd'hui? Je le laisse à votre appréciation. Jésus de Nazareth est pourtant le dernier des prophètes. Bon, Le musulman dira que c'est Mohammed, le dernier des prophètes, mais Mohammed est mort. Et Jésus de Nazareth, lui, il est toujours vivant. Et il n'a pas besoin d'un successeur. Et on verra la semaine prochaine les prophéties qu'il a annoncées et qui se sont accomplies. Et on verra un petit peu plus tard les prophéties qu'il a annoncées et qui sont encore à venir. Jésus de Nazareth, le prophète dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous ouvrir les oreilles et de nous accepter ce qu'elle dit, même si ça ne nous fait pas plaisir, et de venir à toi, qui est un Dieu qui nous appelle toujours à lui. Tu as une mauvaise nouvelle quand tu annonces le péché, mais la bonne nouvelle arrive. Tu as pourvu au sacrifice pour que nous trouvions le pardon. Et Seigneur, à la fois, tu annonces la gravité de nos fautes et à la fois, tu nous présentes la solution. Seigneur, tu es là pour nous sauver, tu es venu pour nous sauver, tu envoies ta parole pour nous guérir. Merci Seigneur, même si nous ne voulons souvent ne pas l'entendre. Seigneur, tu veux notre bien ultime et nous te remercions de tout le bien que tu nous as fait jusqu'à présent. Garde-nous persévérants et sensibles à ta parole, ne pas nous laisser distraire, mais d'avoir le désir dans le cœur de te servir, de t'obéir et de faire des progrès dans la sainteté et dans le service pour toi. Par Jésus, amen. Voilà. Alors le moment convivial maintenant, on va pouvoir parler un petit peu.